Je voudrais évoquer avec vous un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, les versets 14 et 15, où il est dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alors, vous l'avez certainement deviné, le thème que j'aimerais traiter ce matin, c'est celui de l'amertume. Alors, quand on lit les textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous découvrons qu'il y a des textes dans l'Ancien et des textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de ce thème. Et également, il faut le dire, quand nous arrêtons pour penser un petit peu à notre vie, il est évident qu'à certains moments de notre existence, il y a ce ressentiment dans notre être intérieur. Alors, quand on est devant un mot semblable, on aime aller voir dans un dictionnaire ce qui est dit, et on trouve effectivement avec ce mot d'amertume que c'est un ressentiment, et parfois un ressentiment durable, de tristesse, et qui est mêlé de rancœur. Et dans le Petit Robert, on dit que ce ressentiment mêlé de rancœur est lié à une humiliation, est lié à une déception ou bien lié à une injustice. L'amertume. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, il m'arrive de connaître l'amertume, de passer par des temps semblables. Quand on regarde dans les textes bibliques, on découvre des exemples. Et un des exemples très forts, c'est dans le livre de Ruth, où nous avons un couple, Élimélec et Naomi, et qui s'en vont tous les deux, qui quittent le territoire d'Israël. Et s'ils quittent le territoire d'Israël, c'est tout simplement parce qu'il y a la misère, il y a la sécheresse, que rien ne pousse, et parce qu'ils ont une famille, ils se disent qu'il vaut mieux aller un petit peu plus loin sur les terres de Moab pour poursuivre leur vie, ce qu'ils font. Et là, nous dit l'histoire. Le mari va mourir et l'un après l'autre, les deux garçons de cette famille, devenus déjà des adultes, des hommes mariés. Il reste donc Naomi qui est là dans un territoire étranger et à un moment donné, elle décide de rentrer chez elle. Et donc elle arrive. Elle arrive dans son village natal, qui est Bethléem, et elle arrive là avec Ruth. Et à ce moment-là, elle a des paroles très fortes. Quand elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi. » Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ? Alors elle avait un très beau nom, et qui, Naomi, qui signifie douceur, c'est le fruit de l'esprit, Elle donnait de très belles choses, certainement, aux siens et autour d'elle. Elle est partie, elle revient. Et maintenant, elle dit, mon cœur est rempli d'amertume. Et avec ces textes, il nous faut souligner que Naomi dit que si elle est remplie d'amertume, c'est à cause de l'Éternel. Et elle le dit avec des mots très forts, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et de dire, l'Éternel me ramène les mains vides. Et encore, l'Éternel s'est prononcé contre moi. Et encore, le Tout-Puissant m'a affligé. Elle regarde à sa vie et elle pointe du doigt Dieu et dit, si je suis amer, c'est à cause de l'Éternel. Et je me dis que parfois, nous aussi, nous pouvons avoir des temps d'amertume et pointer Dieu en disant, Dieu, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie ? Alors, je ne dis pas qu'elle a raison, je dis que c'est ce qu'elle fait. Dans les textes bibliques, on découvre d'autres personnages qui passent par ces temps d'amertume. Alors, nous avons dans le livre de la Genèse l'histoire très belle des frères de Joseph. Et au chapitre 37 de la Genèse, il est question de Joseph. Et c'est étonnant tout ce qui est donné, tout ce qui est fait pour cet homme. Il est dit du père Israël qu'il aimait Joseph plus que tous les autres fils. Il est dit que pour ce fils, eh bien, il va faire une tunique de plusieurs couleurs. Et alors, ses frères regardent. Ils regardent leur père et ils disent qu'ils l'aiment plus qu'eux. Et alors, le texte nous dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et le texte poursuit en nous disant qu'il y avait de la haine et que ses frères eurent de l'envie contre lui. C'est donc de l'amertume. En regardant ce qui se passe dans la famille, et de se dire, pourquoi lui et pas moi? Il nous faut regarder d'autres textes. Il y a l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Il y a ce temps où Ésaü revient, fatigué de ses heures de chasse, et il est affamé. Il y a là ce frère qui, semble-t-il, reste toujours tranquillement à la maison et qui a préparé un superbe plat de lentilles. Et vous savez qu'il va vendre son droit d'aînesse pour manger un plat de lentilles. Mais un jour, le père Isaac, âgé, eh bien, parce qu'il arrive au terme de sa vie, veut bénir son fils. Et alors, il lui dit, va à la chasse et ramène-moi un gibier comme je l'aime, et après je te bénirai. Il y avait là la maman de Jacob qui avait entendu et qui appelait son fils. Elle a préparé un plat, elle a demandé à son fils d'aller et d'aller avec ce plat. Et d'aller avec des mains revêtues de poils pour tromper le père. Et au chapitre 27 de la Genèse, où il nous est raconté cela, eh bien, on découvre que ce qui va arriver, c'est une immense amertume dans la vie d'Ésaü. Il est dit lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Alors, les textes bibliques nous parlent encore d'un certain nombre d'hommes et qui ont eu leur cœur amer. Il nous est dit de Job qu'il avait le cœur rempli d'amertume. Il nous est dit du prophète Jérémie qu'il avait le cœur plein d'amertume. Il nous est dit d'Azaph, le chantre, celui qui écrit des chants très beaux que nous avons dans les psaumes. Il nous est dit qu'à un moment de sa vie, il avait le cœur rempli d'amertume. Et ainsi on découvre que même des hommes de Dieu d'un haut niveau, des hommes de Dieu extraordinaires, eh bien, ont passé par des temps où ils étaient remplis d'amertume. Alors, je voudrais m'arrêter et vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des temps d'amertume? Vous savez, la Bible ne justifie jamais Jérémie, ne justifie pas Asaph, ne justifie pas Job, ni Naomi. C'est toujours sur le chemin d'un choix, sur un chemin injuste que ces hommes ou ces femmes se sont trouvés et qu'ils ont laissé leur cœur aller à ce ressentiment de l'amertume. Réfléchissez. Nous pouvons avoir de l'amertume dans notre vie après un échec. Nous pouvons avoir de l'amertume en regardant quelqu'un qui est en situation de réussite et nous pas. Nous pouvons avoir de l'amertume à cause de quelqu'un qui nous est proche, à cause de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Nous pouvons être dans l'amertume simplement parce que nous sommes seuls, on n'a pas trouvé le conjoint. Nous pouvons être dans l'amertume parce que certains des nôtres vivent des choses difficiles. Il est dit, d'ailleurs, dans un très beau texte, là, que Rebecca et son mari étaient dans l'amertume lorsque leur fils Ésaü a choisi certaines compagnes. On peut être dans l'amertume pour tant de situations que nous rencontrons jour après jour dans notre vie. Et j'aimerais donc vous poser cette seule question maintenant. Est-ce que vous connaissez l'amertume? Alors, la Bible nous dit, d'une manière très forte, un certain nombre de choses concernant l'amertume. Tout d'abord, il est dit de l'amertume que c'est un péché. Et je voudrais donc vous dire que dans toutes nos situations d'amertume, il y a faute de notre part. Je voudrais vous dire qu'il n'y a jamais une justification juste pour dire « je suis amer et j'ai raison d'être amer ». L'amertume, nous dit la Bible, est quelque chose de coupable et qui peut jaillir dans ta vie et dans ma vie, comme elle a jailli dans la vie d'hommes conséquents, d'hommes engagés avec Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est de noter que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, on parle de l'amertume comme d'une racine. Vous savez, Nous avons des terres, un petit bout de terre ici, et on découvre qu'il y a certaines mauvaises racines, et on peut couper, on peut faire plein de choses, et on découvre qu'il y a des rejetons et qu'il y a des choses difficiles et qui sont là. L'amertume, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est une racine qui produit des rejetons. Alors au départ, les rejetons, c'est des tout petits riens. Mais le problème des rejetons, c'est qu'ils deviennent grands et qu'alors, ils font de terribles dégâts. L'amertume dans notre vie est une racine qui produit de terribles maux dans une vie d'homme, dans une vie de femme, dans une vie de couple et dans notre société. On a dit, et j'aimerais le dire avec force, que l'amertume nous détruit. L'amertume nous détruit de l'intérieur. Elle nous ronge et elle nous fait du mal parce que ce sont des pensées qui viennent et qui reviennent. Et nous sommes dans l'amertume. Ça n'a pas bon goût à notre palais. Mais l'amertume non seulement nous détruit de l'intérieur, mais elle détruit aussi nos relations avec les autres. Vous ne pouvez pas rester avec de l'amertume sans que cela jaillisse dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. Dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 31, il est parlé de l'amertume. Et je voudrais lire avec vous ce texte. Éphésiens 4, 31. Il est dit ceci. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alors c'est un texte fort, mais on pourrait le lire un tout petit peu différemment que ce que je viens de lire. En entendant au travers de ce texte que l'amertume amène l'animosité, que l'animosité amène la colère, que la colère amène la clameur, que la clameur amène la calomnie et que la calomnie amène toute espèce de méchanceté. Et découvrir que tous ces mots qui sont là, côte à côte, sont comme les rejetons d'une racine et qui est l'amertume et qui est dans mon cœur ou dans ma vie. Alors, c'est un mot et qui est là et qui me dit plein de choses. Et peut-être, je me dis, tiens, je me mets en colère, il y a des clameurs, ou il y a de la méchanceté. Et peut-être, nous faut-il revenir à la racine, et nous revenir au point de départ. À savoir, qu'est-ce qui amène tout cela dans ma vie d'homme? Alors, plusieurs textes pour évoquer ce que dit l'Écriture par rapport à l'amertume. Tout d'abord, un texte dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 19. Et dans ce texte, il est parlé du fruit de la chair. Et plusieurs mots sont là pour parler de ces œuvres de la chair. Il est dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, les choses semblables, eh bien l'amertume fait partie de ces choses semblables. Et quand on regarde le texte, on découvre que l'apôtre Paul qui écrit à ces chrétiens de Galate, il écrit en leur disant « il y a les œuvres de la chair ». Et donc, il leur dit « attention, hein, regardez à ces fautes, n'allez pas de suite pointer l'ennemi, le diable, en disant « c'est lui le coupable ». Le texte est là pour dire premièrement de regarder dans votre cœur et dans votre vie, de regarder dans cette nature qui est la vôtre, qui est la mienne, dans cette ancienne nature, dans cette vieille nature, de regarder et de dire que quand ces choses jaillissent, quand l'amertume est là ou quand les rejetons de l'amertume sont là dans mon existence, c'est l'œuvre de ma chair. C'est un problème qui me concerne à moi, de ma vie d'homme, et c'est moi qui ai à régler cela devant le Seigneur. Je crois que c'est important de le souligner. Bien sûr, dans d'autres textes, il est parlé du père du mensonge, il est parlé du diable, de Satan, et qui fait tout, n'est-ce pas, pour arroser cette racine, pour que la racine pousse, et pour que le rejeton pousse vite, pour qu'il y ait plein de choses dans notre existence. Mais en tout premier, il y a une racine et qui est là dans mon cœur. Alors, ayant dit tout ceci, j'aimerais dire encore un tout petit peu ce que produit l'amertume. Alors, je pense que l'amertume, par exemple, nous amène dans la solitude, dans la non-communication, nous amène à rentrer en nous-mêmes et à laisser tourner des choses dans notre cœur et dans notre tête. On s'enferme dans nos problèmes que l'on tourne et retourne de mille et une manières. Mais je voudrais redire ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a aussi de la séparation, forcément, même d'avec mes proches. Et donc, le grand cri qui est là dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est un verbe. C'est un verbe très fort et c'est un verbe très clair. Il est dit « arracher ». Il est dit « arracher ». Donc, il ne faut plus déjà entretenir. Il ne faut pas simplement couper les rejetons. Il faut, nous dit le texte, arracher cette racine qui est au plus profond de nous-mêmes et qui nous fait du mal. Alors, quand on évoque le fait d'arracher, c'est pour moi le moment de vous dire que la Bible nous invite de ressembler, non pas à Caïn, qui a laissé son cœur se remplir d'amertume jusqu'au moment où il a frappé sur la tête de son frère. C'est de ne pas ressembler aux frères de Joseph qui, par jalousie, ont laissé cette amertume grandir et grandir dans leur cœur. C'est de ne pas ressembler à Ésaü ou à Naomi. Mais c'est de ressembler à celui qui a affronté les difficultés de la vie sans jamais être dans l'amertume, à savoir le Seigneur Jésus. Alors vous allez me dire, oulala, le Seigneur Jésus. Oui, nous allons revenir dans un instant pour évoquer le chemin de la victoire. Mais je voudrais encore m'en aller vers un texte et qui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 2. Et ce sont les versets 9 à 11. Et nous lisons ceci dans 1 Jean 2, 9 à 11. Alors, je vous laisse le temps de chercher. Il est dit ceci: celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Eh bien, avec ce texte, je voudrais simplement dire encore que quand on a laissé l'amertume grandir dans notre vie, eh bien, on est aveuglé. On a les yeux aveuglés. Alors, on pense tout le contraire, n'est-ce pas? On pense au contraire que l'on regarde et que l'on sait très bien où on met les pieds. Et que l'on regarde et on sait très bien ce que l'on fait. Mais c'est entre la parole de Dieu et notre parole. Et entre les deux, alors il n'y a pas de discussion possible. Dieu est là pour nous dire « Attention, tes yeux peuvent être aveuglés. » Ton cœur peut être aveuglé. Tu crois être sur le bon chemin. Le chemin de la justice, le chemin d'une réaction normale, le chemin de ce qu'il faut faire. Et la Bible est là en train de dire, attention, que s'il y a ces ressentiments, eh bien, c'est parce que dans ce domaine-là, on est encore dans les ténèbres et qu'on a besoin que jaillisse la lumière. Alors comprenez-moi bien, hein, je parle de Jérémie, je parle d'Ésaïe, je parle de Job, je parle d'hommes de Dieu de haut niveau. Hein. Nous, en comparaison d'un Jérémie, on est tout petit. Et si eux ont connu ces choses-là et ont dû régler ces choses-là avec le Seigneur, nous aussi, quand nous connaissons ces choses-là sur le chemin de notre vie, nous devons reconnaître qu'on s'est laissé aveugler par la chair, qu'on s'est laissé aveugler par l'ennemi, par le prince des ténèbres, et qu'il y a un seul chemin, que l'on doit quitter le ressentiment pour un autre chemin. Alors hier, je travaillais un petit peu sur ces textes, sur ce sujet de l'amertume, puis il y avait mon épouse et mon fils, et je leur ai posé une question toute simple. Qu'est-ce que le contraire de l'amertume? Alors, c'est intéressant, hein, de se dire qu'est-ce que le contraire de l'amertume? Alors, quand on regarde l'histoire de Naomi, il y a en parallèle, je m'appelle Naomi, et douceur, et maintenant vous allez m'appeler Mara, amère. Alors, le contraire de l'amertume, c'est peut-être la douceur, hein, c'est la paix, c'est un sentiment de contentement dans l'être intérieur. Et quand on regarde les textes de la Bible, il est dit d'arracher une racine, mais pour en planter une autre. Vous savez, il est important de toujours mettre quelque chose d'autre à la place de ce que l'on arrache. Et si on arrache l'amertume, c'est pour y planter, ça devrait être pour y planter la douceur, le contentement. Alors Naomi, elle était Naomi, pleine de douceur pour les siens et pour ceux de son village. Elle est partie et elle est devenue amère. Elle a pointé du doigt Dieu. Elle a pointé du doigt tous les événements, toutes les circonstances, le sort. D'autres ont pointé du doigt dans leur vie des souffrances, des difficultés intérieures, ce que les autres leur ont fait. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un chemin et que ce chemin, c'est le chemin de la victoire. Alors, par quoi passe-t-il? Eh bien, je crois qu'il passe par des moments où nous réalisons dans notre cœur que quelque chose d'injuste s'est passé et que nous devons régler ce problème. Il passe par la croix. Où là, au pied de la croix, on regarde Jésus face à face et où on dit « Seigneur, je suis amer et je te demande pardon. » Je crois que cela passe par la confession où on dit au Seigneur « Il y a une racine injuste et qui a poussé dans mon cœur. » Et je crois que cela passe par un changement radical d'attitude. Vous et moi, nous sommes constamment à des croisées de chemin. Et on peut choisir l'amertume ou choisir la douceur et le contentement. Il s'agit donc, à toutes nos croisées de chemin, dire qu'il y a un chemin qui est injuste, qui est celui de l'œuvre de la chair, et qu'il y a un chemin et qui est juste, c'est celui de l'action de l'Esprit. J'aimerais vous dire que Jésus nous dit qu'il y a deux chemins pour le salut, qu'il y a un chemin large qui conduit à la perdition et un chemin étroit qui conduit au salut. Bien, j'aimerais vous dire que pour notre vie de chaque jour, il y a un chemin large et un chemin étroit. Il y a un chemin large qui est celui de l'amertume. Il est facile, très facile de se laisser glisser dans l'amertume. Ce n'est pas la peine de faire d'efforts. Ça jaillit naturellement tout seul dans notre vie. Mais il y a un chemin étroit dont Jésus nous dit qu'il est difficile, mais qu'il nous faut coûte que coûte l'emprunter et choisir le chemin du contentement, de la douceur, de la vraie vie. C'est un chemin difficile. Alors on va regarder les mêmes difficultés dans notre vie. Ça ne signifie pas que ces difficultés ne sont pas là ou que ces difficultés ne sont pas réelles. C'est peut-être vrai. C'est peut-être exact que quelqu'un m'a fait quelque chose, qu'un des miens a été injuste. C'est vrai peut-être qu'il y a une multitude de choses. Mais devant ce qui est, c'est quel chemin je suis. Le large ou l'étroit? Ah, je sais que pour moi, c'est facile de suivre le large. Mais l'étroit me demande du combat, de venir au pied de la croix, de me soumettre aux exigences de la croix, aux exigences de l'écriture, pour faire non pas ce que mon cœur me dit de faire, mais pour faire ce que Dieu me dit de faire. Au bout du chemin large de l'amertume, eh bien, il y a le néant. Il y a des choses terrifiantes. Au bout du chemin étroit, du contentement, de la douceur, du combat de chaque jour pour vivre de belles choses pour le Seigneur, il y a la vie pour chacun de nos instants. Quel chemin vas-tu suivre, mon frère, ma sœur ?